Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Vous aimez manger? Vous aimez les repas? Quelle sorte de repas aimez-vous? C'était un repas tout à l'heure. C'était un repas? C'est le repas du Seigneur, c'est Jésus qui l'a institué. Vous avez mangé hier soir? C'est quel repas le plus important? Celui d'hier soir ou celui-là? En quantité, c'était peut-être celui d'hier soir. Mais je pense qu'en qualité, le plus grand sera toujours le repas du Seigneur. Nous sommes sous son regard, nous sommes heureux d'y être. J'espère que vous êtes heureux d'être sous son regard. Le Seigneur vous regarde, le Seigneur vous connaît, et il sait ce que vous avez besoin d'entendre. Alors on va lire deux versets, s'il vous plaît, dans la parole de Dieu. Le premier, c'est dans l'évangile de Jean. Tous, d'ailleurs, presque pour ainsi dire, dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, il y a une réflexion qui est faite. Une réflexion qui est faite parce qu'il y a un problème. Ça se passe dans le cadre d'un mariage, vous savez. Le Seigneur a été invité, Jean chapitre 2, verset 2. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Voilà le constat. Dans Jean au chapitre 21. Dans Jean 21, il y a une autre situation, les apôtres sont désœuvrés, le Seigneur Jésus est ressuscité, mais ils n'ont pas tout compris. Ils repartent à la pêche, certains ne sont pas des pêcheurs de poissons. Ils repartent, ils sont, si je ne me trompe pas, ils sont sept des apôtres sur les 11 qui restent. Ils vont pêcher, verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Donc dans la première lecture, nous voyons, ils ont plus de vin. Et dans cette deuxième lecture, ils n'ont pas à manger. Vous avez lu les évangiles, vous appartenez tous au Seigneur, plus ou moins. Vous aimez Jésus, si vous êtes venu ce matin, c'est que vous aimez Jésus, ou que vous découvrez le Seigneur Jésus. Quand vous êtes de plus en plus familiarisé avec la parole de Dieu, vous vous rendez compte que dans les quatre évangiles, Jésus est présenté d'une manière différente. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus est présenté comme le roi, le grand roi. C'est pour cela que l'évangile de Matthieu commence avec une généalogie d'Adam et ça parle tous les rois d'Israël. Pourquoi? Parce que Jésus est le roi. Dans l'évangile de Marc, Jésus est présenté comme le serviteur. Il est venu comme un serviteur. Il est le plus grand des serviteurs, mais il s'est fait serviteur. Dans l'évangile de Luc, Jésus est présenté comme le Fils de l'homme. Et si vous avez remarqué, vous le remarquerez après cette exhortation, Jésus aimait s'appeler le Fils de l'homme. Parce qu'il s'est fait homme, homme avec un H majuscule, mais Jésus s'est fait homme. Il est venu sur la terre, c'est ce que tous les chrétiens doivent fêter normalement ce week-end, que le Dieu du ciel et de la terre s'est fait homme. Et Jésus, même quand le diable l'a, si tu es le fils de Dieu, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de paix. Il s'est fait homme, comme nous, même s'il était le fils de Dieu. Dans l'évangile de Jean, Jésus est présenté comme le Fils de Dieu. C'est pour ça que l'évangile de Jean nous l'envoie directement du ciel. Au commencement était la parole. Vous avez vu comment l'évangile de Jean commence. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean nous le fait venir directement du ciel. Pourquoi? Parce que dans l'évangile de Jean, Jésus est présenté comme le Fils de Dieu. Le monde ne l'a pas reçu. Nous, on est là. Vous l'avez bien reçu, le Seigneur? Vous l'avez reçu dans votre cœur? Vous pouvez dire, mais il est dans mon cœur. C'est ce que M. Go a dit sur le repas, je suis d'accord. Rien, même le meilleur des vins blancs, le meilleur des pâtés, le meilleur des desserts ne remplacera jamais ce repas. Vous le croyez vraiment? Ou c'est juste une idée? Vous pouvez le dire vraiment, le plus grand repas? C'est plus important pour moi ce repas que celui d'hier soir? Le Seigneur le sait. Vous savez ce que Jésus est venu et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Est-ce que ça a changé? Non. Les gens préfèrent les ténèbres. Les gens aiment les ténèbres. Et le Seigneur nous laisse libres. Ce n'est pas tout le monde qui ressemble à cette femme. Moi, j'aime cette histoire. Dans l'évangile, vous savez, quand Jésus était en train de prêcher, et il y a une femme qui, dans son cœur, devait être bouleversée. Elle écoutait ce Seigneur parler. C'est vrai que ça devait être une expérience, quand même. Elle écoutait le Seigneur et elle n'a pas pu ne pas lui couper la parole. Pendant que Jésus parlait, c'est écrit dans l'évangile de Luc, je l'ai marqué, oui, Luc 11, 27, elle était bouleversée et elle a coupé la parole, Seigneur. Ça ne se fait pas, ça. Est-ce que ça se fait? Non, ça ne se fait pas. Mais elle l'a fait et Jésus ne le lui reproche pas en plus. Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Cette femme, elle était bouleversée. Est-ce que vous êtes toujours bouleversé par la parole de Dieu? Est-ce que vous aimez la parole? Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et Jésus ne lui dit pas, mais qu'est-ce que c'est ça de me couper la parole? On ne me coupe pas la parole. Jésus va lui dire, heureux plutôt, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est extraordinaire la réponse. Vous prenez compte, parce que c'est vrai que quand même, moi je pense très souvent à Marie. Je pense très souvent à cette femme. Pourquoi? Parce que elle a été choisie pour quelque chose de merveilleux quand même. Vous ne trouvez pas? Hein? Et cette femme, bon, même si elle a porté Jésus-Christ dans son sein, même si elle a allaité le Seigneur, Jésus dira qu'il y a quelque chose de plus, en tous les cas, qui procure encore plus de bonheur, c'est d'écouter la parole et de la mettre en pratique. Les vrais chrétiens, ils aiment la parole. À quoi on reconnaît un vrai chrétien? Il aime la parole. Il aime la parole. Il ne peut pas ne pas serrer la parole dans son cœur. Il a besoin de la parole. Il la serre dans son cœur. C'est pas physique. Bien sûr que vous pouvez la serrer physiquement sur votre poitrine. Ça peut représenter la même chose en plus. Oui ou non? C'est pas. Ça peut ne pas être de la superstition. Ça représente quelque chose qui montre que vous voulez être de plus en plus proche de la parole de Dieu. Un vrai chrétien, il est sérieux avec la parole. Il sait combien la parole est la vérité. Alors dans la parole de Dieu, vous l'avez lu? Qui n'a pas lu la parole? Hier, ma petite fille me disait, papy, tu as lu la Bible en entier une fois? Ah, je dis, ma petite fille, écoute-moi bien. Je ne l'ai pas lu une fois, la Bible. Et elle n'arrive pas à croire, parce que c'est vrai que j'ai des grosses Bibles, elle n'arrive pas à croire ça. J'espère que vous avez lu la parole de Dieu et que nous la lirons jusqu'à la fin. Elle est éternelle. Alors dans la parole de Dieu, vous l'avez lu, vous avez remarqué qu'il y a des prodiges, qu'il y a des miracles, qu'il y a des signes, vous l'avez remarqué, hein? Ces mots sont utilisés. Alors j'ai regardé vraiment, vraiment dans le dictionnaire, puisque nous avions eu un débat avec un stagiaire, nous n'étions pas tout à fait d'accord, mais quand même, cette fois-ci je vous encourage à bien écouter. Le mot prodige désigne l'acte lui-même, prodige. C'est l'acte lui-même. Le mot miracle désigne l'effet de l'acte, c'est-à-dire l'impact qu'il a sur les gens. Ça, c'est les résumés les plus sobres. Et le signe, le mot signe, bien sûr, est en relation directe avec la signification qu'il faut en tirer. Alors, vous avez lu les trois premiers évangiles, vous avez remarqué certains évangiles regorgent de miracles, de guérisons. On pourrait en lire un, juste un quand même. Gardez la page de Marc, de Jean, dans Marc au chapitre 6. Quand on lit les évangiles, on se rend compte. Bon, dans l'évangile de Marc, je l'ai dit tout à l'heure, Jésus est présenté comme le serviteur, bien sûr, il est venu servir les hommes, et bien sûr, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il ne pouvait que manifester sa puissance au travers de guérisons. Regardez, Marc chapitre 6, versets 54 à 57. 56, pardon. Marc 6, 54. Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs. Et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. En quelque lieu qu'il arrive, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques, on le priait de lui permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Voilà, ça c'est un des textes que l'on pourrait bien sûr lire à l'infini, il y en a plusieurs, qui montrent que dans certains endroits, en tous les cas dans les trois premiers évangiles, vous voyez vraiment que le Seigneur Jésus a guéri des villages entiers. C'était extraordinaire. La présence du Seigneur se manifestait par des guérisons. Mais dans l'évangile de Jean, il n'y a que 8 miracles. C'est une façon de parler, bien sûr. Mais comparé à ce que l'on voit dans l'évangile de Marc, par exemple, c'est étonnant de voir que dans l'évangile de Jean, il n'y en a que 8. Et ces 8 miracles sont des signes. Cela veut dire que chaque miracle a un enseignement particulier, un signe comme un panneau sur les autoroutes ou qui nous rappelle régulièrement la vitesse à laquelle il faut conduire. Et bien de la même manière, il y a des signes qui nous montrent ce que le Seigneur, il est. Alors on va voir ces 8 signes, on vient d'en lire 2. Alors c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce qu'en plus, ces signes vont par couple. Le premier signe a le même enseignement que le 8e. Le 2e a le même enseignement que le 7e. Le 3e a le même enseignement que le 6e. Et le 4e a le même enseignement que le 5e. C'est extraordinaire. On a juste lu dans le premier miracle et dans le dernier miracle quelque chose qui revient, c'est-à-dire qu'on constate quelque chose. D'un côté, il n'y a pas de vin. Et de l'autre, il n'y a pas de pain. Ce sont des signes. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, mes frères et sœurs, nous sommes dans une société vraiment difficile. Nous sommes dans un monde compliqué. Et s'il n'y a pas le Seigneur, il ne pourra jamais y avoir la joie. Jamais. Le premier miracle, vous le savez, on l'utilise souvent quand on fait des mariages, on parle de la façon dont le Seigneur Jésus a été invité. Il a été invité. Dans le deuxième signe, il n'est pas invité. C'est lui qui s'invite. Et quand on chantait ta bienveillance, je ne sais pas quel mot, quelle expérience vous mettez derrière les mots, parce que même si les chants résument bien ce que l'on a vécu ou ce que l'on va vivre, il n'empêche que certains mots nous ramène à des expériences personnelles. Et quand on chante ces cantiques, moi bien sûr, je pense à plein de sujets, je pense à plein de textes, et je pensais à la bienveillance du Seigneur quand les apôtres étaient complètement désœuvrés, ils n'avaient pas compris, je ne sais pas ce qu'ils ont discuté toute la nuit dans cette barque, peut-être ils ont rappelé cette parole de Jésus, il vous est avantageux que je m'en aille, je suis sûr que peut-être ils ont dû, entre eux, ils ont dû dire... Moi, franchement, je n'ai pas encore compris l'avantage que Jésus s'en aille. Parce que toute la nuit, quand on travaille pour rien, qu'on se retrouve à 7 sur une barque, on peut discuter. Même les hommes, ouais, peuvent beaucoup discuter. Et ces hommes sont là, bien sûr, ils expérimentent une fois de plus ce qui se passe, même si on a connu Jésus, lorsqu'il n'est pas là, ça va être difficile. Lorsque Jésus n'est pas là, c'est toujours difficile. Il était là aux noces de Cana, il a été invité, il s'est invité au dernier miracle. Est-ce que vous l'avez invité, le Seigneur, dans votre cœur? Ou est-ce que juste vous êtes là? Parce qu'il faut être honnête avec Dieu. Vous savez, Dieu regarde au cœur. Le Seigneur, il le sait. Si on est là par superstition, il y a des gens, ils se convertissent et ils restent superstitieux. C'est-à-dire, ils vont à l'église en espérant qu'en allant à l'église, le Seigneur sera avec eux. Ça, c'est de la superstition, ça prouve que l'expérience n'est pas complète. Il y a des gens qui invitent Jésus, c'est quelque chose de profond, de solennel, et c'est de cette façon-là qu'ils auront toujours la possibilité d'avoir la vraie joie, parce que le vin, dans la parole de Dieu, nous parle de la joie. La joie de l'espérance, la joie du salut. Vous l'avez cette joie, vous pouvez dire ce matin, mais c'est... Est-ce que vous pouvez dire, mais vraiment, je suis heureux. J'ai la joie de Dieu. J'ai la joie du salut. Je sais à qui j'ai cru. Je sais qu'il a les paroles de la vie éternelle. Est-ce parce qu'il y a des gens, ils sont chrétiens, même fait, ils sont chrétiens, mais la joie... Il faut être honnête. Hein. Ils aiment Dieu, mais ils aiment aussi le monde. Ils aiment l'église, en même temps, ils aiment l'extérieur. Ils n'ont jamais su se positionner. Ils sont là, comme un oiseau sur la branche. C'est terrible. Mais quelqu'un qui a invité Jésus, Il sait très bien que justement, quand il y aura des moments de désœuvrement, le Seigneur saura venir. Parce que la bienveillance du Seigneur, c'est ça. C'est qu'il sait nous rejoindre, le Seigneur. Vous savez, il est bon, le Seigneur. Il aurait pu les laisser un petit peu en vrac. Il aurait pu les laisser piétiner un peu plus. N'oubliez pas qu'ils avaient tous dit, nous on ne te reniera pas, même si Pierre avait été le meilleur dans l'affaire. Ils avaient quand même tous dit certaines choses, et pourtant tous l'ont abandonné. Tous. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il les rejoint, il les a laissés quand même toute la nuit, parce que ça nous rappelle à nous, ça nous enseigne que sans Jésus, il ne peut pas y avoir de joie. La joie, elle ne peut venir que par le Seigneur. C'est pour ça que notre monde est malade. C'est pour ça que, je ne sais pas s'il y a des nouveaux dans l'Église, la joie, vous ne la trouverez jamais. Il y a des joies, il y a des petites joies éphémères, il y a des petits trucs qui font plaisir. Vous achetez une nouvelle voiture, bien sûr, il y a de la joie. Et chez les vrais chrétiens, il y a une immense reconnaissance par rapport à ce que Dieu nous donne. C'est ça en plus. C'est que les seuls qui peuvent avoir en plus une joie ajoutée, c'est ceux qui ont la vraie joie du salut, parce qu'ils sont pleins de reconnaissance. Mais sans Jésus, il ne peut pas y avoir de vin. Sans Jésus, il ne peut pas y avoir de rassasiement. En plus, vous avez vu, Jésus va leur faire faire une expérience. Ils vont pêcher 153 grands poissons, ce qui fait qu'ils vont faire une expérience particulière, parce qu'ils avaient besoin aussi, excusez-moi l'expression, mais de faire bouillir la marmite. Il fallait bien qu'ils vivent aussi. Donc, ils ont dû vendre ces 53 grands poissons. Jésus aurait pu leur faire pêcher les poissons. Il leur dit, bon, maintenant, vous en videz quelques-uns et vous les préparez. Et comment il les attend, Jésus? Vous connaissez l'histoire, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est bien quand même que vous lisiez dans l'évangile de Jean, au chapitre 21. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il ne leur a pas fait pêcher que 153 grands poissons. Regardez ce qui est écrit, verset 9. Regardez la bonté du Seigneur. Ils étaient fatigués, c'est clair, ils avaient passé la nuit à pêcher pour rien. Jean 21, verset 9. « Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. » Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça s'appelle comment? La bienveillance. Est-ce que Jésus était obligé? Est-ce qu'ils n'auraient pas pu prendre? C'était pas déjà beau les 153 grands poissons? Ils ne pouvaient pas en prendre, je sais pas moi, ils étaient 7, avec Jésus 8. Vous voyez, ils en prenaient, s'ils étaient grands, ils en prenaient 4 au maximum, mais voilà. Il leur en restait 149. Oui ou non? Et c'était déjà bien. Jésus aurait pu dire à un, écoute, Nathanaël, va au village acheter du pain. Non? Quand Jésus est là, c'est ça que vous expérimentez. Je ne sais pas ce que vous avez expérimenté en 2016, je ne sais pas ce que vous allez expérimenter en 2017, mais si Jésus est avec vous, si vous l'invitez toujours, ou si vous le laissez vous rejoindre, parce que c'est une chose que Jésus s'invite, mais on voit très bien que des chrétiens ont eu l'intelligence de le mettre dehors de l'Église. Il se tenait à la porte, c'est que la preuve qu'on peut l'empêcher de nous rejoindre. Et il y a des choses archi graves dans l'Église, dans le cœur de chrétiens qui ont un comportement tellement déplorable, pitoyable, tellement loin de Dieu, que cette expérience-là, ils ne peuvent pas la vivre, ils ne peuvent pas la vivre, ils ont réussi à le mettre dehors. Parce que quand même, il faut être sérieux, quand on connaît la parole, on se rend bien compte que c'est une chose que Jésus s'invite. C'est extraordinaire quand le Seigneur s'invite dans nos réunions, qu'on est au privilège de cette faveur. Seigneur, j'ai besoin de joie. Pourquoi il y a des chrétiens qui rétrogradent? Vous savez, quand les chrétiens vont chercher la joie dans le monde, c'est qu'ils ont déjà rétrogradé. Oui ou non? Posez-moi les questions que vous voulez à la fin, vous savez que c'est vrai. Et je pense que dans le monde, certaines choses que Dieu nous accorde dans le monde sont des bénédictions. Je ne sais pas, moi, il y a des chrétiens qui vont aller peut-être faire du ski. Oui, il y a des choses saines. Il y a des choses saines. Mais la vraie joie, elle n'est que lorsque le Seigneur nous donne le salut. Et lorsque nous entretenons ce salut. Et lorsque nous nous rassasions, nous sommes rassasiés de sa nourriture. Moi, cette histoire, elle m'a toujours bouleversé. Toujours.
Parce qu'il y a un temps, je crois, il y a un temps pour les reproches, il y a un temps pour la sévérité, tout ça, et c'est archi intelligent. Mais il y a ce temps où le Seigneur, il nous rassasie. Et si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, je ne parle pas de religion, je ne parle pas de baptême, je ne parle pas de « moi je suis pentecôtiste, moi je suis baptiste, ah, t'es que baptiste ». On l'entend ça des fois. Vous voyez, comme c'est très, très élevé comme niveau. Mes frères et sœurs, est-ce que Jésus a été invité dans votre maison? Est-ce que Jésus peut s'inviter lorsqu'il y a un couac, lorsqu'il y a une difficulté, car ça arrive? Est-ce que le Seigneur peut vous rejoindre et tout à nouveau vous apporter sa nourriture? Est-ce que vous l'expérimentez? C'est exactement ça. Les deux signes, le premier et le dernier signe de l'évangile de Jean, cela veut dire que quand il n'y a pas le Seigneur, vous ne pouvez pas être rassasié, vous ne pouvez pas être désaltéré. Bien sûr, vous allez me dire, mais on fête Noël. Écoutez, je ne veux pas faire une digression sur le sujet, mais franchement, comment les gens fêtent Noël? C'est du théâtre, c'est du folklore. Hein. Hier ou avant-hier, j'ai regardé, je lis souvent Google Actualité, et il y avait un petit reportage d'un historien qui parle de Jésus. Un historien nous parle de Jésus. Alors je lui dis, tiens, je vois ce qu'il en parle. Qu'est-ce qu'il dit? Alors c'était super, les 20 premières lignes, oui, conformément aux Écritures, conformément à Flavius Joseph, enfin il cite des historiens qui ont vécu dans cette période-là. Bien sûr que tout le monde sait que Jésus-Christ a existé, tout le monde peut dire que Jésus a fait des miracles, tatati, tatata. Et puis quand il arrive à la conception miraculeuse de Jésus-Christ, oui, bon, de là à penser que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie, tout cela, bien sûr, n'est que des poésies, de la légende. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ, il vient, il est venu et il va revenir. Alors il vaut mieux être avec lui, croyez-moi. Il vaut mieux être avec lui, oui. Noël, aujourd'hui, c'est du théâtre. En France, on a l'intelligence même de fêter le Noël des animaux pour vous dire comment on a fait des progrès. Le deuxième et le septième signe. C'est dans Jean au chapitre 4, versets 46 à 54, c'est la guérison du fils du centenier. Vous savez que le centenier avait un fils qui était gravement malade, près de mourir. Ne le cherchez pas. Et dans Jean au chapitre 11, versets 1 à 14, c'est le septième, c'est la résurrection de Lazare. Donc le deuxième et le septième nous parlent de mort ou de deuil, ou d'une personne qui est près de mourir. Qu'est-ce que c'est le contexte? La mort et le deuil. D'un côté, un enfant qui est presque à mourir, et de l'autre, on le sait bien sûr, Lazare qui est mort. Qu'est-ce que Jésus fait? Il vient et il intervient. Quelle histoire merveilleuse! Notre monde est rempli de gens qui sont morts. D'ailleurs, qu'est-ce que nous étions avant d'être convertis? Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Vous étiez morts. Alors, pas physiquement, bien sûr, pas émotionnellement. Nous étions morts spirituellement. C'est très très bien expliqué dans la parole de Dieu. Si vous voulez le savoir, vous le découvrirez vite. Que lorsqu'un homme n'a pas donné son cœur à Jésus-Christ, il est mort. Et donc le deuxième et le septième signe dans l'évangile de Jean sont des témoignages qui nous enseignent que lorsqu'il n'y a pas le Seigneur, eh bien il y a la mort. Il y a la mort ou la peur de la mort ou le deuil. Les gens sont toujours angoissés par rapport à la mort. Ils ont la crainte de la mort. Ils se posent des questions. Ils ne veulent pas croire en Dieu, mais en même temps, ils se posent des questions, etc. S'il y a quelque chose après, etc. La mort. Il y a la mort physique, bien sûr, qui est une réalité, qui est une bénédiction pour les chrétiens, mais qui est une malédiction pour les gens qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Parce que les chrétiens, bien sûr, partent dans le paradis, alors que les gens qui n'ont pas accepté Jésus-Christ partent en enfer. Et ce sont des choses, et ça a été écrit pour qu'on le comprenne bien. La Bible dit que celui qui a Jésus-Christ, la grâce de Dieu est sur lui, le ciel lui est ouvert, la vie éternelle lui a été donnée, et que celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu, demeure sur lui. C'est pour ça que les gens sont dans la mort, les gens ont peur. Alors ils vont vous dire, non, moi je suis athée, moi je crois en rien, moi tout ça c'est des balivernes. Mais en vérité, les gens, ils ont peur. Pourquoi je le sais? Eh bien parce que quand ils se convertissent, ils le disent tous. Quand ils se convertissent, ils disent tous après, ouais, on faisait les bons, on faisait les malins, on disait qu'on n'avait pas peur, mais en fin de compte, on flippait grave. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et voilà, tout, ben ouais, c'est ce qu'a dit John, il l'a dit. Enfin, sans Jésus, il y a la mort. Mais dès que le Seigneur vient, il y a la vie. Et si ce matin on est là, rempli de reconnaissance, bénissant le Seigneur pour ses cantiques, pour la communion fraternelle, vous êtes content d'avoir des frères et des sœurs à côté de vous? Vous connaissez votre frère à côté de vous? Votre sœur, vous le connaissez? Est-ce que vous êtes heureux d'avoir des frères et sœurs? Eh oui! Vous connaissez le pasteur en face de vous? Non, mais il vaut mieux pas. Ouais. La communion fraternelle, c'est une bénédiction. Que de grâce, que de bénédiction. Mais Jésus l'a dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Et quand Jésus vient, et si Jésus est dans votre maison, vous avez la vie. Si Jésus est dans votre cœur, vous avez la grâce de la vie. La vie, c'est une bénédiction. Et pourtant, pour beaucoup de gens, la vie, c'est devenu une malédiction. Quelle grâce de lire ces choses. Ah ouais. Quelle grâce de voir la résurrection de Lazare. C'est pas une bénédiction, la résurrection de Lazare? On est habitué, on est presque familiarisé, ça fait que ça ne nous fait plus grand-chose. Mais est-ce que vous vous rendez compte ce que ça représente? Chaque fois que Jésus a croisé un mort, il en a, heureusement qu'il n'en a croisé que trois. Les trois qu'il a croisés, il les a ressuscités. Je me demande ce qui se serait passé s'il avait traversé des cimetières. Chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il est la vie. Le jour où il est mort, il y a des saints qui sont sortis des sépulcres. Pourquoi? Parce qu'il est la vie. Et mes frères et sœurs, il faut bien le comprendre. C'est ça le signe. S'il n'y a que 8 signes dans l'évangile de Jean, c'est pour que les chrétiens, nous nous appliquions à comprendre ce qu'est vraiment le ministère de Jésus. Dans l'évangile de Jean, je le répète, il est le Fils de Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant qui s'est manifester sa vie. Vous avez lu l'Ancien Testament, Ésaïe 61, 1 à 3, « Je leur donnerai une île de joie au lieu du deuil. » Ce n'est pas extraordinaire, hein? Quand on est dans le deuil, d'avoir une huile de joie. Vous avez connu le deuil tous? Qui n'a pas connu le deuil? Le deuil de quelqu'un de proche, ça peut arriver encore. Vous voyez, on a tous connu le deuil. Tous connu quelqu'un de proche, de très proche, que l'on a profondément aimé, mais il y a des gens qui ne se remettent jamais du deuil. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce Dieu qui console, ce Dieu qui vient et qui intervient. Je leur donnerai une huile de joie au lieu du deuil, un diadème au lieu de la cendre, de la consolation pour tous les affligés, la guérison pour tous ceux qui ont le cœur brisé. Voilà le signe, c'est que lorsque Jésus vient, il change le mal en bien. Le troisième et le sixième signe, c'est dans Jean au chapitre 5, versets 1 à 47, c'est, vous savez, le paralytique à la piscine de Bethesda, vous savez, cet homme qui était impotent depuis 38 ans, et dans Jean au chapitre 9, versets 1 à 41, c'est l'histoire de l'aveugle-né. Donc dans les deux cas, qu'est-ce qu'on voit? L'infirmité, une grave maladie. Un homme qui est aveugle de naissance, un homme qui est malade depuis 38 ans, paralysé depuis 38 ans, c'est terrible. Hein, voilà, donc deux signes, que je l'ai dit, pareil, qui se couplent, hein. Le troisième va avec le sixième. Le signe, c'est quoi? Eh bien, c'est que la guérison, elle ne peut venir que par le Seigneur Jésus. Je ne sais pas où vous en êtes. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un de malade ce matin. Est-ce que le Seigneur présent dans le lieu peut guérir quelqu'un? Est-ce que quelqu'un pourrait, pendant que je prêche, saisir ce signe? Mais c'est vrai que là où il y a le Seigneur, il y a la guérison. Vous rappelez quand ils sont sur le chemin avec les 12 et ils croisent cet aveugle qui est aveugle de naissance. Et pour vous dire combien la religion, ça abîme la tête. Les apôtres s'arrêtent et demandent au Seigneur, mais qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Est-ce que c'est lui ou ses parents? Parce qu'ils étaient tellement enseignés que le péché produit toujours la maladie, qu'il fallait bien qu'il y en ait un qui ait péché, ou les parents, ou le petit dans le sein de sa mère. Est-ce qu'un enfant peut pécher dans le sein de sa mère? N'importe quoi, c'est impossible. Mais voyez, ils étaient tellement pétris de ça, d'ailleurs il y a des gens parmi nous qui le sont, dès qu'ils ont une épreuve, une difficulté, qu'est-ce qui est arrivé, ou qu'est-ce qu'il a eu, ou s'il a un problème, tu n'en parles pas, mais peut-être il a bien cherché. Moi, ça ne me fait pas rire parce qu'on a perdu des gens à cause de ça. On a perdu des gens. Il y a des gens qui ont rétrogradé à cause de ça. Alors que l'épreuve, elle pouvait venir de Dieu pour enseigner quelque chose d'extrêmement utile. D'ailleurs, qu'est-ce que Jésus va répondre aux douze? On le lit, on peut le lire. Jean chapitre 9. C'est intéressant. Et si nous lisions davantage la parole de Dieu, si nous étions plus sérieux devant la présence de Dieu lorsqu'il parle, lorsqu'il dit quelque chose, puisqu'il procure la vie, eh bien, je peux vous dire qu'on ferait davantage de progrès. Regardez Jean chapitre 9. Ben, c'est pour vous dire combien c'est ancré, ça l'était, mais ça l'est encore. Jean chapitre 9, verset 2, ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus a répondu. Regardez bien ce qu'il a répondu. « Ce n'est pas que ses parents aient péché. » Il aurait pu répondre, écoutez-moi bien mes frères et sœurs, il aurait pu répondre, oui bien sûr, ce sont les parents qui ont péché, mais, là il dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc Dieu l'a permis. Est-ce que Dieu peut permettre une épreuve? Eh bien oui, mais moi je suis peiné quand je vois le nombre de chrétiens qui croient que toutes les épreuves viennent du péché. Ce n'est pas vrai. Et je n'ai pas le temps bien sûr de vous l'expliquer ce matin. Dieu peut permettre tout un tas d'épreuves. Ce qui est important, c'est que le Seigneur soit dans nos vies. Le signe de ces deux miracles, c'est que cet homme qui était aveugle de naissance, qui n'avait pas Dieu. C'est pour ça que Jésus a pris de la boue avec sa salive, et il en a fait de, il a pris de la terre, il a fait de, avec sa salive, il a fait de la boue, et il l'a mis dans l'orbite pour créer des yeux. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'on peut empêcher Jésus de rentrer dans notre vie, ou de re-rentrer dans notre vie, ou le laisser frapper à la porte, ce qui est une honte, bien sûr. N'oublions pas que chaque fois qu'il y a un miracle, il y a la participation de l'homme. Cet homme aurait pu dire, mais qu'est-ce que tu fais? De quoi je me mêle? Prenez compte? Non, mais il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas encore. Il va dire, c'est un prophète. On le voit, l'homme qu'on appelle Jésus, il ne connaît rien. Mais il l'a laissé faire. Il faut quand même une participation. Ce miracle nécessitait. Est-ce que vous laissez le Seigneur vous toucher? Est-ce que vous laissez le Seigneur par la parole de Dieu vous toucher? Ou est-ce que vous ne supportez plus l'attouchement du Seigneur? Est-ce que vous ne supportez plus une parole, un reproche, de lire un commandement? Moi j'en ai marre, toujours des reproches. Eh bien, c'est peut-être que vous en avez besoin. Si vous les acceptiez, ça serait. Et réfléchissez bien. Si ça fait 20 ans que Dieu vous dit la même chose, c'est que peut-être ça fait un moment que ça dure. Comme cet homme que j'avais croisé dans la rue, qui me dit « ça fait 18 ans que Dieu ne m'exauce pas, et je ne comprends pas pourquoi ceci, pourquoi cela. » J'ai dit « mais moi, ça commencerait à me faire du souci, moi. » J'ai dit « vous pourriez vous poser la question, pourquoi il y a tant d'obstacles à mes prières ?» Je sais qu'il y a des moments où Dieu dit non, mais on a la paix. Vous me suivez ? Vous pouvez demander à Dieu certaines choses qu'il n'a pas encore accordées. Ce n'est pas pour ça qu'il y a obstacle à la prière. Parce que je peux vous dire qu'il y a quand même la paix. Mais il faut savoir laisser faire le Seigneur. Jésus a pris de la boue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Imaginez, vous êtes aveugle, quelqu'un s'approche de vous et il vous pose deux ou trois questions. Il commence à mettre de la boue dans les orbites. Vous dites, mais où tu vas? Eh oui, mes frères et sœurs. Jésus a dit, je t'instruis pour ton bien. Si nous étions, franchement, si on était beaucoup plus simple et beaucoup plus sérieux, je pense qu'on expérimenterait davantage la guérison. Et puis Jésus va dire à cet homme, écoute, tu vas maintenant au réservoir de Siloé. Je ne sais pas combien de kilomètres c'était, si c'était à 500 mètres, si c'était un kilomètre, qu'importe. Il y a été tout seul avec sa canne, il y a été tout seul avec des amis, j'en sais rien. Il y a été. Il y en a qui auraient dit, mais écoute, non, mais tu me prends pour qui? Je n'y vois pas, en plus tu me mets de la boue dans la figure, et en plus tu me demandes d'aller me laver. Non, mais franchement, il y a un truc qui ne tient pas debout. Oui ou non? J'exagère ou c'est... Il l'a fait. Si Dieu vous demande de vous repentir ce matin, que vous êtes tu m'as dit de venir pour que tu me parles de bénédiction, et le pasteur sur l'estrade, il n'est peut-être pas bien, mais il me parle de repentance. Mais qu'est-ce que c'est ce cinéma? Tu me dis que Dieu va me bénir et lui me dit qu'il faut que je me repente de mes péchés parce que je suis un pécheur? Ben oui, tu ne comprends pas, mais je peux te dire que la bénédiction suivra la repentance. Que la bénédiction suivra la conversion. Et si tu ne comprends pas tout, fais-lui confiance. Quand il vient, c'est pour bénir. Et si on est là ce matin, peut-être vous ne le connaissez pas, mais moi je vous le dis, il est là pour vous bénir. Il est là pour vous aider, accepter qu'il vous mette de la boue dans les yeux si vous êtes aveugle, accepter qu'il pose sa main sur vous, accepter de prendre la parole et de dire, mais je vais la lire. Je vais la lire. Est-ce que vous aimez lire la Bible ou est-ce que vous faites partie de ces chrétiens? Oh, moi j'y comprends que dalle, j'y comprends plus rien, puis je l'ai déjà lu. Ah ouais? Si vous en êtes là, je vous plains. Si vous faites partie de ces gens qui n'avaient plus envie de lire, si vous faites partie de ces gens qui n'ont plus envie d'être rassasiés de pain spirituel, rassasiés de vin spirituel, je vous plains. Si vous n'aimez pas sous une forme ou sous une autre, parce qu'en plus aujourd'hui, tout le monde peut écouter la parole de Dieu. Tout le monde, en plus il y a des trucs, il y a des applications, vous allez sur un ordi, n'importe où, sur un portable, vous pouvez écouter la parole de Dieu, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est quand même extraordinaire, vous l'avez dans plusieurs langues, vous avez avec des explications, avec des commentaires. Je vous plains, c'est qu'en vérité vous dites que vous l'aimez, mais c'est pas vrai. Et ça il vous faut l'entendre, je sais que ça plaît pas tout le monde, parce qu'il y a des chrétiens qui vont à l'église et ils s'imaginent, se persuader qu'ils aiment Dieu, mais c'est pas vrai. Si ces choses-là, vous ne les vivez plus, si vous ne les croyez presque plus, si vous ne les expérimentez plus, c'est pas vrai. Il y a un truc qui ne va pas. Et il faut dire, Seigneur, envoie-moi tout à nouveau au réservoir. Je veux aller au réservoir. J'irai. Je suis aveugle de nouveau, parce qu'on peut se faire piéger. Vous savez, il n'y a pas que les pécheurs qui sont aveugles. La Bible dit que celui qui n'aime pas son frère, c'est un... Il est un aveugle ? C'est écrit ou c'est pas écrit? Eh oui, c'est écrit. Vous voyez? Celui qui n'aime pas son frère est un aveugle. Si vous n'aimez pas quelqu'un, je vous le dis, vous êtes un aveugle. Mais le Seigneur, il a le pouvoir de guérir. Quand? Maintenant. Seigneur, je pardonne. Seigneur, j'accepte ta parole, oui, je l'accepte, que tu me poses tes mains sur les yeux. J'ai besoin. Vous avez vu cet homme malade depuis 38 ans? Où c'est qu'il l'a retrouvé Jésus? Où c'est qu'il l'a retrouvé Jésus? Dans le temple. Vous voyez quelle image merveilleuse. Cet homme, il avait besoin de se retrouver dans la présence de Dieu. Et Jésus va lui dire, ne pêche pas. Ah, tiens. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Vous voyez, à l'un, ce n'était pas dû au péché, c'était pour manifester sa gloire. Mais l'autre, vous voyez, il s'est trouvé 38 ans paralysé. À cause d'un péché. Vous voyez comme quoi il faut être intelligent. Il y a vraiment des maladies qui sont liées au péché. Il y a des épreuves, parce que c'est une épreuve, ou des maladies qui sont permises par Dieu, que Dieu va utiliser d'une façon ou d'une autre. Pourquoi? Mais pour sa gloire. Ne pêche pas de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Oui, il faut savoir. Laissez Dieu nous parler. Parce que je pense que beaucoup de chrétiens sont dans un aveuglement total. C'est une chose, vous savez, de dire, Seigneur, parle-moi. Vous êtes d'accord? Est-ce que, on est sous le regard du Seigneur, c'est pas pour piéger quiconque, mais est-ce que nous pouvons dire à Dieu, à tous, parle-moi? Je ne sais pas si vous calculez ce que ça veut dire. Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu va nous dire ce qu'on a absolument besoin d'entendre. Vous êtes d'accord? Et ça va être, bien sûr, pour chacun, il y a de très, 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 très fortes chances que ça soit une parole différente pour chacun. C'est fort probable. Bien sûr, s'il y a 20 personnes qui sont dans l'amertume, Dieu va dire à ces 20 personnes, pardonne. Et tant que tu ne pardonnes pas, ton Père Céleste ne te pardonnera pas. C'est évident. Mais s'il y a 200 000 cas différents, il y aura 200 000 réponses différentes. Mais qu'est-ce que Dieu veut me dire? Est-ce que je suis capable, malgré ma cécité, malgré ma paralysie, d'aller jusqu'au réservoir? Parce que le réservoir de Siloé, ça veut dire l'envoyer, c'est l'image bien sûr du Seigneur. Est-ce que je suis capable de me retrouver seul dans sa présence, parce que c'est le seul aveugle, les autres aveugles, Jésus ne les a pas guéris comme ça. Certains, il y en a un, il l'a guéri à l'imposition des mains, il y en a un qui il a dû le guérir en deux fois, parce que le gars, il voyait des arbres marcher. Jésus sait comment vous parler. et ne cédez pas à toute cette pression que les autres voudraient peut-être vous imposer. Tu sais, moi j'ai vécu cette expérience, et si tu fais comme moi, tu vivras la même expérience. C'est pas vrai, c'est pas écrit dans la Bible ça. C'est quelque chose de personnel. Dieu, il vous connaît, mais une chose est certaine, si vous vous approchez de lui, il vous aidera. Ce sont les signes de l'évangile de Jean. Le quatrième et le cinquième signe, c'est dans Jean au chapitre 6, versets 1 à 14. C'est quoi? C'est la multiplication des pains. Et dans Jean chapitre 6, 15 à 21, c'est que Jésus marche sur les eaux. Ça, c'est le quatrième et cinquième signe. Bien sûr, quelle est la signification de ces deux signes? Vous avez vu Jésus qui multiplie les pains et les poissons. Et le deuxième, c'est que Jésus marche sur les eaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vous l'ai dit, Jésus, dans l'évangile de Jean, est présenté comme étant le Fils de Dieu, Dieu Tout-Puissant. Vous savez ce qu'Ésaïe avait dit? Que quand la Vierge enfanterait un fils, on lui donnerait plusieurs noms. Pour rappeler les noms qu'on devait donner au Seigneur, on l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu Puissant, Prince de la Paix, et Père Éternel. C'est bien, vous devez être dans une bonne église. Les cinq attributs, il y en a d'autres, il y en a 150. Mais les cinq attributs que Ésaïe donne, sont celui, on l'appellera Dieu Tout-Puissant. Et n'oublions jamais, et c'est ce qui est grave aujourd'hui, même dans nos assemblées, certains commencent à enseigner que Jésus n'est pas Dieu. Jésus est le Tout-Puissant. Bien sûr, dépouillé de sa gloire, parce que s'il était venu rempli de sa gloire, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, on aurait tous explosé. On n'aurait pas pu supporter sa gloire. Donc, il s'est dépouillé de sa gloire et il est venu comme un simple homme. Mais il n'empêche que même si c'est le Fils de l'homme, il était Fils de Dieu. Ça, nous ne le réalisons pas. Mais lorsque nous voyons ces deux signes, là, en plein centre de l'évangile de Jean, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que le Seigneur Jésus est bien le Créateur du ciel et de la terre. Pourquoi? Parce que personne ne peut multiplier la matière. Parce que je sache, même si je ne suis pas un physicien ou un scientifique, je sais très bien qu'on ne peut pas multiplier les atomes. On ne peut pas, c'est impossible. Il n'y a que le Seigneur qui peut le faire. Et en multipliant les pains et en multipliant les poissons, Jésus a prouvé qu'il était le Créateur du ciel et de la terre. Et si les gens se moquent de cette affaire, eh bien, qui se moque? Moi, ça me bénit et ça me réjouit de savoir que Jésus a multiplié les pains et les poissons au bien fondé de tous ces gens qui étaient là et qui ont dû faire cette expérience merveilleuse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En plus, il est dit, voyez cette délicatesse, il les fit assis là. Pourquoi il les a fait asseoir à tel endroit? C'est écrit. Pardon? Parce qu'il y avait de l'herbe. Vous voyez, cette sollicitude, il aurait pu leur dire, bon, vous asseyez là, mais il y a des cailloux, ben, tu t'assois quand même. Non, non, non. Pourquoi je vous dis ça? Moi, je suis émerveillé par la tendresse du Seigneur. Parce qu'il y avait beaucoup d'herbe. Et l'ordre, il les fit asseoir par rangée de 50 et de 100. Il y a de l'ordre. Ce n'est pas parce que Dieu veut faire des miracles qu'on fait les choses à l'envers. Il faut de l'ordre. Dans une église, il faut de l'ordre. Dans une église, il faut de la bienséance. Si nous voulons que le Seigneur se manifeste, il faut de l'ordre. Ça n'empêchera pas les miracles que dans une église, il y ait de l'ordre. Il les fit asseoir. Et puis, il nous a dit qu'il y avait un petit garçon là qui ne savait pas certainement ce qui allait arriver. Mais enfin, il a donné son petit pique-nique avec ses cinq pains et ses deux petits poissons. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait de ces pains? Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a brisés. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Gou? Il les a brisés. Ça veut dire que lorsque vous vous mettez dans la main du Seigneur, il y a des épreuves. Mais est-ce que ça vaut la peine? Et tous les commentaires que j'ai pu lire intelligents sur cette affaire enseignent tous qu'il ne peut pas y avoir de multiplication sans qu'il y ait le brisement. Et je dois accepter les épreuves dans ma vie, toutes. Béni soient les gens qui acceptent toutes les épreuves. Heureux, heureux sont les gens qui ont compris que toutes les fois où nous étions dans la main du Seigneur, on ne pouvait pas être mieux placés. Mais il les a brisés. Il pouvait les multiplier certainement sans les briser. Je le pense. Mais il y a un enseignement. Il faut être dans la main du Seigneur. Est-ce que vous pouvez dire ce matin, mais je suis dans la main de Dieu? Si vous n'obéissez pas, vous n'y êtes pas. Si vous avez de l'amertume dans votre cœur, vous n'êtes pas dans la main de Dieu. Si vous n'obéissez pas, vous n'êtes pas dans la main de Dieu. Il faut que vous l'entendiez. Mais si vous dites, moi, j'ai pas grand-chose, tu veux m'utiliser, Seigneur, pour nourrir des gens? Est-ce que c'est un bienfait que Dieu nous utilise pour nourrir des gens? Matériellement, c'est possible. On le fait au sein de l'Assemblée. Les moyens que nous avons nous permettent de nourrir des gens. Au Mali, au Niger, nous avons acheté je ne sais pas combien de tonnes et des tonnes de mille pour nourrir des villages entiers. Est-ce que c'est bien de le faire? Bon, on le fait, on continuera à le faire en fonction des besoins qui se présenteront et de l'orientation que le Conseil donnera. Mais pouvoir prendre notre vie, que le Seigneur la brise au travers d'une épreuve ou d'une autre, mais que nous puissions être utilisés pour nourrir des gens. Est-ce que ça ne vous intéresse pas? Ça vous intéresse? Que ma vie puisse être utilisée, Seigneur, mais Dieu, deux poissons, en plus, c'est deux petits poissons, c'est des poissons que les poissonniers jetaient, d'après tous les commentaires que j'ai lus, c'est ça. C'était des petits poissons, c'était les poissons qu'on ne vendait pas, c'était les poissons que, vous voyez, quand on les triait, on les jetait et les pauvres les ramassaient. Donc, tous les commentaires que j'ai lus stipulent donc que c'était le repas d'un pauvre. Mais voyez, c'est ça qui est merveilleux. Je ne sais pas, peut-être que vous vous considérez comme pauvre spirituellement. Vous dites, mais moi, je suis dans le même cas de figure. Je n'ai pas grand-chose. Mais le problème, ce n'est pas que vous soyez pauvre ou riche. Ça n'a aucune importance, et matériellement ou spirituellement. Ce qui est important, c'est ce que vous avez passe dans la main du Seigneur. Et vous serez utile pour nourrir les gens. Vous croyez qu'il devait être content, le petit garçon, quand il est rentré chez lui? Je ne sais pas comment il est rentré chez lui. Vous savez que je suis un spécialiste des films. Biblique. Il a dû rentrer chez lui, papa. Papa, assieds-toi. Maman, assieds-vous tous les deux. Je vais vous raconter un truc. Vous savez, ce matin, je suis parti et je me suis retrouvé pas trop loin d'un certain Seigneur qui s'appelle Jésus. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en fin de compte, mon pique-nique, il a fini dans ses mains. Et ça a nourri 5000 hommes. C'est pas merveilleux? Je ne sais pas s'il va raconter ça à ses parents. Qu'importe, mais c'est pour vous faire sourire un peu. C'est pour vous dire que quand même, il y a des choses qui nous marquent dans la vie. Vous n'avez pas qu'envie de faire des expériences qui vous marqueront? Vous n'avez pas envie de faire des expériences qui vous marqueront? Pourquoi? Eh bien parce que les signes sont là. Quand Jésus est là, quand on le laisse s'approcher dans le dernier signe où Jésus marche sur la mer... Vous le savez, dans un autre texte, il nous est dit que lorsque Jésus s'est approché d'eux, il paraissait vouloir les dépasser. Moi, quand je lisais l'évangile, je dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce que ça veut dire? Il va les rejoindre et il voulait les dépasser. Donc, il voulait ne pas s'arrêter. Et en plus, eux, ils ont eu peur, la superstition, ils ont cru que c'était un fantôme. La superstition de l'époque disait que lorsqu'on voyait un fantôme, ça y est, c'était la dernière minute, etc. Alors, je ne vous dis pas l'ambiance. Et Jésus leur a dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Moi, je trouve que c'est bien comme histoire. Vous croyez que c'est vrai, ça, ou c'est des blagues? Vous croyez que Jésus il peut marcher sur l'eau? Vous êtes sûr que c'est vrai? Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est le maître des éléments. C'est ça, le signe. Il a le pouvoir sur la matière, il a le pouvoir sur les éléments. Il est le Fils de Dieu. Et si vous croyez ces choses, si ces huit signes, vous les croyez, si vous croyez qu'il peut multiplier le pain, si vous croyez qu'il peut vous donner du pain, si vous croyez qu'il peut vous donner du vin, si vous croyez qu'il est capable de guérir, s'il est capable de pourvoir, de changer la mort en vie, s'il est le Fils de Dieu pour vous, vous pourrez dire, et je conclue, vous pourrez dire... L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne sais pas si, parce que ce psaume, moi je le connais par cœur, ça fait partie de ces textes que j'ai appris par cœur. Je peux vous réciter le psaume 23 par cœur sans problème, mais je peux vous dire que dans la tête, ça fait rien, ça sert à rien du tout. Mais ces choses-là, quand on les applique à notre vie, quand on les expérimente, Seigneur, mais je suis malade. Mais est-ce que Dieu, je le répète, est-ce que Jésus peut guérir quelqu'un ce matin? Mais bien sûr, s'il est à la porte, ou s'il est au coin de la rue, ou si on l'empêche de nous toucher, ou si on l'empêche de nous donner un ordre, remplissez d'eau ces vases, apportez les poissons que vous venez de prendre. Si vous êtes réticent à tous les ordres de Dieu, si vous n'êtes intéressé que par la bénédiction, ça ne va pas aller loin, vous rétrograderez, je vous le dis. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais si vous n'acceptez pas les conseils de Dieu, vous rétrograderez. Si vous acceptez les conseils de Dieu, vous serez béni. Et vous direz, oui, il est le Créateur. Mon Seigneur, tout a été créé par lui et pour lui. Et bientôt, mes frères et sœurs, on va se retrouver avec lui. Je crois que ça vaudra la peine d'avoir sur la terre pris le temps de comprendre les signes. Moi, vous savez, j'ai passé des heures à préparer cette affaire. Mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut un morceau de foie gras? Oui, ça m'a coûté aussi cher, je vous le dis. Est-ce que ça vaut la peine de réaliser qu'il redonne la vie? Mes frères et sœurs, il faut persévérer, il faut aller au réservoir. Et oui, on pourrait reprendre ces 8 textes. Mes frères et sœurs, si l'Éternel est votre berger, vous ne manquerez de rien. Alléluia. Est-ce qu'on le remercie? Est-ce qu'on lui demande de l'aide? Est-ce que vous êtes d'accord? Ou on s'en va sans le remercier? On va fermer les yeux, sérieusement. Joyeusement, je ne sais pas, mais en tous les cas, Dieu va voir comment vous vous recueillez. Vous savez, il n'y a que Dieu qui regarde. Il n'y a que lui qui sait. Vous savez, lorsqu'il a nourri ses 5000 hommes, sans les femmes et les enfants, il savait exactement ce que chacun d'eux pensait. Il sait ce que vous pensez de cette exhortation. Il sait si ce que j'ai dit tout à l'heure est vrai, si le petit morceau de pain et le petit gobelet de vin que vous avez pris tout à l'heure est plus important que le repas d'hier soir ou le repas de tout à l'heure. Et que Dieu fasse que matériellement nous ne manquions de rien dans nos maisons, c'est quand même une bénédiction. Mais si vous avez dit oui, c'est vrai, mais il a raison. Ce petit repas, il est, c'est le plus grand. C'est le plus grand. Parce qu'il me rappelle toute mon expérience avec Dieu. On va lui rendre grâce. Après, on chantera un cantique. On chantera un cantique pour le louer, car je pense qu'on ne peut pas se séparer sans tous ensemble le louer. Nous te remercions, Seigneur, pour tous les signes qu'il y a dans cet évangile. Nous te sommes reconnaissants pour le jour où tu as décidé de quitter ton ciel pour venir au calvaire. Jamais, même si nous l'avons déjà fait des milliers de fois, jamais, nous ne nous enlacerons. Merci pour la croix. Merci pour tes mains et tes pieds percés, que nous verrons bientôt. Merci d'être couronné de gloire et d'honneur dans ton ciel. Merci de veiller sur nous, de nous rappeler que là où tu es, rien ne nous manquera. Tu vois dans ce lieu si quelqu'un est fatigué, malade. Oui, tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui ressuscite les morts. Tu maîtrises les éléments. Tu changes l'eau en vin. Merci pour la joie, Seigneur. La joie du salut. Si quelqu'un ne l'avait pas, amène-le au calvaire et qu'il y reste jusqu'à ce qu'il obtienne le pardon. Oui, nous te bénissons pour ce jour, Seigneur, pour tous les jours que tu nous donnes. Tu sais combien, Seigneur, pour nous, il n'y a pas de jour de Noël, vraiment. Tous les jours que tu nous donnes sont des jours de grâce. Du 1er janvier au 31 décembre, tous les jours, nous sommes sous le signe de la grâce. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit loué. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen.